Lucille était consciente de l'examen détaillé dont elle faisait l'objet, mais elle refusait de laisser entamer la barrière de détermination profonde derrière laquelle toute révérende mère pouvait s'abriter dans les moments de stress. Qu'elle me regarde tant qu'elle voudra. Présentant son profil à Shuang Yu, elle adopta un sourire léger en fixant des yeux la terrasse du bâtiment voisin. Un homme en uniforme armé d'un laser de combat apparut derrière le parapet, jeta un bref coup d'œil aux révérendes mères, puis se pencha pour observer l'enfant.
« Qui est-ce ? »
demanda Lucille. « Patrine, l'homme de confiance du Bachar. Il dit qu'il n'est que son ordonnance. » Mais il faudrait être aveugle et stupide pour croire une chose pareille. Lucille examina l'homme avec soin.
C'était donc lui, Patrine.
Né sur Gameux, avait dit Taratsa. Choisi pour cette mission par le Bachar en personne. Blond, maigre, beaucoup trop vieux pour jouer aux soldats. Mais le Bachar lui-même était à la retraite avant de reprendre du service.
Et c'était sur son insistance que Patrine partageait son sort. Shuang Yu remarqua la manière soucieuse dont Lucille reportait son attention de Patrine au Gola.
Oui, si le Bachar avait été rappelé pour prendre en main la défense de cette citadelle, c'était que le Gola courait un extrême péril. Lucille sursauta soudain d'étonnement.
Mais ce qu'il fait là, c'est...
Ce sont les ordres de Miles Teg, fit Shuang Yu en citant le nom du Bachar. Tous les jeux du Gola font partie de son entraînement. Ses muscles doivent être prêts pour le jour où il recouvrera son moi d'origine.
Mais ce ne sont pas de simples exercices qu'il est en train de faire là.
Lucille sentait ses propres muscles réagir par sympathie devant les mouvements familiers du Gola. Seuls les arcanes du Bene Gesserit sont interdits à ce Gola, expliqua Shuang Yu. Il a accès à la presque totalité de nos connaissances. L'intonation de la vieille révérende mère indiquait clairement qu'elle trouvait cela hautement contestable.
Personne n'imagine, j'en suis sûr, que ce gars-là pourrait devenir un nouveau Kwisatz Haderach,
objecta Lucille. Shuang Yu se contenta de hausser les épaules. Lucille demeura silencieuse, perdue dans ses réflexions. Était-il possible qu'un jour ce Gola se transforme en une version mâle des révérendes mères? Ce Duncan Idaho pouvait-il apprendre à faire pénétrer sa vision intérieure dans des régions où aucune révérende mère n'osait s'aventurer? Shuang Yu parla alors d'une voix sourde, presque rauque.
« Leurs intentions sont extrêmement dangereuses. Elles risquent de commettre les mêmes erreurs que... »
Shuang Yu n'acheva pas sa phrase.
Lucille remarqua l'emploi du pronom « elle ». C'était leur Gola, leur responsabilité.
« Je donnerais cher pour connaître avec certitude la position des Ixiens et des Truitesses dans cette affaire, » dit Lucille.
« Les Truitesses, elles ne croient qu'à la justice et à la vérité, »
fit Shuang Yu en secouant la tête, à la pensée des vestiges de cette armée de femmes qui avait autrefois servi exclusivement le tyran.
Lucille sentit sa gorge se serrer soudain. Shuang Yu venait presque de déclarer ouvertement son opposition. Pourtant, c'était elle qui commandait ici. Le principe politique était simple. Ceux qui s'opposaient à un projet devaient le superviser afin d'y mettre fin au premier signe de défaillance.
Mais c'était un authentique Gola Duncan Idaho qui se trouvait en bas sur la pelouse.
Les examens cellulaires et les diseuses de vérité l'avaient amplement confirmé.
Taratsa avait dit
« Vous lui enseignerez l'amour sous toutes ses formes. »
« C'est qu'il est si jeune, »
murmura Lucille sans quitter le Gola des yeux.
« Très jeune, oui, » approuva Shuang Yu. « J'imagine que pour l'instant... vous allez vous contenter de le faire réagir à certaines formes d'affection maternelle. Plus tard... »
La révérende mère haussa les épaules. Lucille, pour sa part, ne laissa transparaître aucune émotion. Une Bene Gesserit était faite pour obéir.
« Je suis une imprégnatrice. Par conséquent... »
La suite des événements découlait des ordres qu'elle avait reçus et de sa formation très spécialisée.
« Il y a quelqu'un qui me ressemble et qui parle avec la même voix que moi, » dit Lucille. C'est pour elle que je suis chargé d'imprégner. Puis-je savoir comment elle s'appelle ?
Non.
Lucille demeura silencieuse. Elle ne s'était pas attendue à des révélations. Mais plus d'une fois, on lui avait fait remarquer qu'elle ressemblait de manière frappante à la révérende mère d'Harvey Odrade, des services de sécurité. Odrade en plus jeune. Souvent, elle avait entendu cette phrase. Naturellement, elles étaient issues toutes les deux de la lignée des Atréides, renforcées par la branche des descendants de Siona. Sur ces gènes-là, les Truites n'avaient pas le monopole. Du reste, sa mémoire seconde de révérende mère, malgré sa sélectivité linéaire et exclusivement féminine, lui livrait d'importantes clés concernant les grandes lignes du projet Gola. Lucille, qui avait pris l'habitude de tenir compte de la persona Jessica, implantée quelques 5000 ans auparavant dans les manipulations génétiques de l'ordre, sentait monter actuellement de cette source une sourde impression de danger. Le signal était familier, mais d'une telle intensité que Lucille, machinalement, se réfugia dans cette litanie contre la peur qu'on lui avait apprise dès ses premiers contacts avec les rituels du Bene Gesserit. « Je ne dois pas connaître la peur. La peur est l'ennemi de la raison. La peur est la petite mort qui cause l'anéantissement suprême. Je fais face à ma peur. Je la laisse passer en moi et autour de moi. Et quand elle est passée, je suis ses traces dans ma vision intérieure. Là où elle est allée, il ne demeure plus rien d'autre que moi. » Le calme revint en elle. Shuangyu, percevant vaguement ce qu'il se passait, relâcha légèrement sa garde. Lucille n'était pas stupide. Ce n'était pas une de ces révérendes mères spéciales, aux titres creux et aux qualifications à peine suffisantes pour ne pas discréditer l'ordre. Lucille était pleinement qualifiée et il y avait des réactions que même une autre révérende mère ne pouvait lui cacher. Soit. Elle allait savoir la véritable ampleur de l'opposition à ce sujet ridicule et éminemment dangereux.
« Je ne pense pas que leur Gola vivra assez longtemps pour voir Rakis, » dit-elle.
Lucille ne releva pas.
« Parlez-moi de ses amis, » fit-elle.
« Il n'a pas d'amis, il n'a que des instructeurs. »
« Quand ferai-je leur connaissance ?»
Lucille regardait la terrasse du bâtiment d'en face, où Patrine s'appuyait négligemment au parapet, le laser à portée de la main. Elle se rendit compte avec un choc qu'il était en train de la regarder. Patrine représentait un message envoyé par le Bachar.
« Nous veillons. » Et il était visible que Shuangyu comprenait aussi le message.
« Je suppose que c'est Miles Tegg que vous avez hâte de rencontrer, » dit la vieille révérende mère.
« Entre autres. »
« Vous ne voulez pas d'abord établir le contact avec le Gola ?»«
C'est déjà fait, »
dit Lucille, en baissant les yeux vers la pelouse où, une fois de plus, l'enfant s'était immobilisé, les yeux levés vers la terrasse.
« Je le trouve très réfléchi, » ajouta-t-elle.
« Je n'ai pas connu les autres, sinon par leur dossier. Mais j'ai l'impression que celui-ci est le plus réfléchi de toute la série. »
Lucille réprima un frisson involontaire devant l'hostilité violente que recelaient les moindres attitudes et les moindres propos de Shuangyu. Pas une seule fois elle n'avait laissé penser que l'enfant qu'elle voyait en bas partageait avec elle une trace d'humanité quelconque. Tandis que Lucille entretenait ses pensées, des nuages cachèrent le soleil, comme cela arrivait fréquemment à cette heure-ci. Un vent glacé s'engouffra par-dessus l'enceinte de la citadelle, balayant la pelouse. L'enfant se détourna et reprit ses exercices sur un rythme accéléré, comme pour se réchauffer.
« Où va-t-il quand il a envie d'être seul ?» demanda Lucille.
« Principalement dans sa chambre. Il a tenté plusieurs escapades, bien trop dangereuses pour que nous les encouragions. »«
Il doit nous détester ?»«
C'est à peu près certain. »«
Il faudra que je m'occupe de ça avant tout. »
« Je suis sûr qu'une imprégnatrice comme vous n'aura aucun mal à neutraliser ce sentiment. »«
C'est à Géassa que je pensais, »
fit Lucille avec un sourire entendu.
« Je trouve surprenant que Géassa et vous ayez commis une telle erreur. »«
Il ne m'appartient pas d'intervenir dans le processus normal d'éducation du Gola. Qu'une de ses instructrices se prenne d'affection pour lui, ce n'est pas mon problème. »
« L'enfant est attachant ?»
dit Lucille.
Elles demeurèrent encore quelque temps sur la terrasse à observer les exercices et les jeux du gola. Chacune de son côté, les deux révérendes mères pensaient à ce qui était arrivé à Géassa, l'une des premières instructrices que l'on avait envoyée ici pour le projet Gola. L'attitude de Shuangyu était évidente. L'échec de Géassa a été providentiel. Quant à Lucille, elle se contentait de penser « Shuangyu et Géassa m'ont compliqué la tâche ». Ni l'une ni l'autre ne songea un seul instant à la manière dont ces réflexions renforçaient leurs allégeances respectives. Tout en regardant l'enfant, Lucille commençait à se faire une idée différente de ce que Leto II le tyran avait voulu accomplir en réalité.
L'empereur-dieu avait utilisé inlassablement ce gola-type, un individu après l'autre, sur une période de 3500 ans. Et l'empereur-dieu était une force de la nature peu ordinaire, le plus grand Jeganath de l'histoire humaine, qui écrasait tout sur son passage, aussi bien les sociétés organisées que les oppositions individuelles, naturelles ou forcées, les gouvernements, les rites, officiels ou occultes, les religions, profondes ou ordinaires. Rien n'avait échappé au passage destructeur du tyran, pas même le Bene Gesserit. Leto II appelait cela le Sentier d'or, et le Gola Duncan Idaho que Lucille contemplait en ce moment avait joué tout au cours de cette effroyable période un rôle éminent. La révérende mère avait étudié de très près les archives du Bene Gesserit, probablement les plus complètes que l'on pût trouver sur la question. Et même à présent, sur la plupart des vieilles planètes impériales, les nouveaux mariés avaient coutume de jeter des poignées d'eau à l'est puis à l'ouest en psalmodiant leur version locale de « Que par cette offrande ta bénédiction retombe sur nous, ô Dieu de toute puissance et de miséricorde infinie ». Autrefois, c'était le rôle des truitesses et de la prêtraille qu'elles dirigeaient que de veiller sur cette foi aveugle. Mais le mouvement avait acquis son propre poids pour devenir une compulsion universelle. Même le croyant qui avait le plus de doutes se disait « N'importe comment, ça ne peut pas faire de mal ». C'était une réussite que les plus fins stratèges religieux de la Missionaria Protectiva admiraient, non sans une pointe de frustration. Le tyran avait surpassé le Bene Gesserit dans son propre domaine. Et 1500 ans après la mort de l'empereur-dieu, la communauté des sœurs était toujours impuissante à désamorcer le redoutable dispositif. « Qui s'occupe de l'éducation religieuse de cet enfant ?» demanda Lucille.
« Personne. À quoi cela servirait-il ? Si sa mémoire originale doit lui être restituée, il aura ses propres idées. Nous nous en occuperons s'il le faut le moment venu. »
L'enfant avait apparemment terminé sa période d'exercice. Sans relever les yeux vers la terrasse, il quitta la pelouse entourée de murs par une large porte qui se trouvait sur sa gauche. Patrine abandonna également son poste d'observation, sans un seul regard en direction des révérendes mères.
« Ne vous laissez pas abuser par les hommes de Teg, » déclara Shuangyu. « Ils ont des yeux derrière la tête. Savez-vous que la mère naturelle de Teg était l'une des nôtres ? Je crois qu'il enseigne à ce gola des choses qu'il aurait mieux valu oublier. »